êtes spécialiste dans la ligne de santé mentale. Vous êtes
au travail,
bien sûr, vous êtes formé pour ça. D'ailleurs, je découvre que vous êtes même secouriste en santé mentale.
Alors, je suis secouriste et formatrice de secouristes en premier secours santé mentale.
D'accord. On en touchera peut-être un mot à la fin, mais pour l'heure, alors, le harcèlement, parlons-en.
Oui, on en parle beaucoup, de plus en plus souvent dans les médias. On parle de récits de harcèlement, qu'ils soient moraux ou sexuels. Il y a les deux aspects. Mmh. Alors, les entreprises, vous avez parlé des écoles, mais les entreprises, comme les autres écosystèmes, sont confrontées à ce phénomène et tentent pour la plupart de s'en prémunir avant que ça arrive. Quant aux salariés, ils ne s'intéressent généralement à la question que lorsqu'ils sont malheureusement confrontés au problème. Alors, je vous propose d'abord de parler de la situation de l'entreprise. Et ça, en dehors de tout événement déclaré, donc en termes de prévention.
Alors justement, donc la loi prévoit forcément des obligations pour les entreprises.
Oui, oui, tout à fait. D'abord, une obligation d'information. En fait, l'obligation est de sensibiliser par tous les moyens les salariés à la notion de harcèlement moral ou sexuel. Alors, c'est une notion qui est assez mal définie. Et il arrive fréquemment qu'un harceleur ne soit pas vraiment conscient de la portée de ses actes. Bon, en général, il sait tout de même que ses propos et ses gestes sont un peu limites. Mais il les justifie par les coutumes, les habitudes, le fait que, bon, c'est pas bien méchant. C'est pour ça que l'obligation d'information n'est aujourd'hui pas jugée satisfaisante par les juges si elle n'est pas concrétisée par une mention dans le règlement intérieur avec une petite affichette discrète dans les locaux du personnel. En fait, il est important de compléter cette information par de la formation du personnel d'une part pour identifier ce qui est normal et ce qui n'est pas ou ce qui l'est moins, et de l'encadrement qui va devoir apprendre à repérer certaines situations délicates.
Mais quand un salarié se trouve harcelé et que le manager ou son chef identifie une situation qui l'interpelle, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? C'est pas simple d'aborder ce genre de sujet. Et si c'est justement en plus quelqu'un d'au-dessus de lui qui est mis en cause?
Oui, ce qui arrive. Alors, dans l'obligation de l'employeur, il y a cette obligation de mettre en place en fait un dispositif complet qui permet aux salariés de déclarer en toute sécurité un acte de harcèlement. Donc on va prévoir des moyens de déclaration, des interlocuteurs, ou un interlocuteur dans l'entreprise. Bon, une entreprise de plus de 250 salariés aura l'obligation d'avoir un référent, mais on peut très bien le faire dans une petite entreprise également. L'employeur doit prévoir les suites à donner en cas de déclaration pour faire cesser au plus vite les agissements. Et puis, il doit prévoir des sanctions à l'encontre d'un salarié qui serait mis en cause après une enquête. Alors, la notion de sécurité, elle est primordiale. Le salarié harcelé doit pouvoir faire état de ce qu'il subit sans faire l'objet de pression. Et tout ça doit être prévu à l'avance. Donc concrètement, ça se matérialise par une organisation qui est portée à la connaissance de tous et qui indique quoi faire, auprès de qui, mais de manière très claire.
Ouais, tout ça me semble très réglementaire, très, très juridique, mais ça se passe pas toujours comme ça, si?
Non, et puis bon, vous savez que j'ai tendance plutôt à penser aux salariés et à sa santé mentale. Donc le harcèlement sexuel est caractérisé par un fait unique, et on voit à peu près de quoi on parle, le harcèlement moral, il va découler, lui, d'agissements répétés. Le salarié va subir des comportements délétères à répétition, et il n'en prend pas toujours conscience. En fait, il peut s'enfoncer progressivement dans un schéma dépressif sans vraiment analyser ce qui se passe.
Oui, mais il arrive aussi qu'il réalise assez vite en fait ce qui se passe. La dynamique, on peut appeler la dynamique perverse de la situation.
Oui, oui. Alors effectivement, dans ces cas-là, quelles sont ses marges de manœuvre? En fait, il a quand même plusieurs possibilités. Alerter le CSE ou bien un représentant du personnel. Il peut s'adresser à l'inspecteur du travail. Il peut prendre rendez-vous avec le médecin du travail, qui est un très bon interlocuteur. Donc il y a des possibilités pour sortir de la solitude du harcelé. La difficulté, c'est surtout de prendre conscience de la situation et une fois qu'on en a pris conscience, de trouver le courage d'agir. Et là, en parler avec un professionnel peut vraiment aider à ce stade.
Alors, avec vous, par exemple, Isabelle, qui est maintenant formée au premier secours mental.
Oui, oui, alors avec moi, avec plaisir, je reçois à la clinique du travail.
La médecine du travail, j'imagine.
Non, à la clinique du travail.
Oui, la médecine du travail peut intervenir sur ce genre de cas.
Tout à fait, oui, médecine du travail, inspection du travail, tout à fait. Mais avant d'en arriver là, parfois, le salarié a besoin d'une étape intermédiaire pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et là, effectivement, donc, on est plusieurs professionnels, plusieurs types de professionnels à pouvoir l'aider. Ça peut être un psychologue, un médecin, voilà. Mais en tout cas un professionnel neutre qui aidera le salarié à analyser la situation.
Très bien, bah merci beaucoup Isabelle. Un site que sur lequel je suis tombé en préparant cette émission, PSSM France, alors Premier Secours de Santé Mentale France.fr, ça explique en fait pas mal de choses sur les formations qui existent, sur comment se former dans les entreprises pour ce genre de cas.
Alors, dans les entreprises et dans la vie citoyenne, puisqu'en fait c'est une formation de citoyens, comme les premiers secours physiques, qui a vocation à former un maximum de citoyens à la prévention de la santé mentale. Et ça existe depuis 2019 en France.
Ah, c'est tout récent en fait.
Mais depuis 2003 en Australie et aujourd'hui dans 25 pays dans le monde. Donc c'est vraiment un format standardisé qui va permettre de mieux prendre en charge les problèmes de santé mentale quand ils arrivent.
Bon, très bien. Merci.